envoyez-nous vos moments ailleurs, 01 56 40 68 68. Elle a le même prénom que notre invitée du jour. Faites comme Nina dans le Luberon.
Je suis dans le Luberon, à côté d'un lac qui s'appelle le lac de Paty. Il y a les cigales. Je regarde vers le ciel, alors il y a les branches de pin qui s'agitent un petit peu avec le vent. Et ça sent vraiment bon, la pinède.
France Inter, chacun sa route.
C'est un voyage qui nous emmène aux confins d'une culture diverse, d'une multiculture. Apprendre à se connaître au fur et à mesure des territoires, des paysages, des vallées et de la mer. Notre invité aime nager un peu partout. Son premier roman, La Voyeuse Interdite, sort en 1991, prix du Livre Inter à l'époque. Mes mauvaises pensées, en 2005, remporte le prix Renaudot. Elle a écrit 16 romans, est officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. On ne sait pas exactement ce que cela signifie, mais ça fait chic. Son dernier livre, Otage, aux éditions Lattès, est sorti en janvier dernier, dans une France pré-confinement. Il a reçu le prix Anaïs Nin, un livre sur les violences sociales faites aux femmes. Elle a un nom de famille qui, en algérien, signifie « conteur ». Ça tombe bien, pour entamer notre conversation, elle a choisi la lecture d'un texte magnifique.
Élodie Font, chacun sa route, sur France Inter.
Déjà, aux portes même d'Oran, la nature hausse le ton. Du côté de Canastel, ce sont d'immenses friches couvertes de broussailles odorantes. Le soleil et le vent n'y parlent que de solitude. Au-dessus d'Oran, c'est la montagne de Santa Cruz, le plateau et les mille ravins qui y mènent. Des routes, jadis carrossables, s'accrochent aux flancs des coteaux qui dominent la mer. Au mois de janvier, certaines sont couvertes de fleurs, pâquerettes, les boutons d'or en font des allées fastueuses, brodées de jaune et de blanc. De Santa Cruz, tout a été dit. Mais si j'avais à en parler, j'oublierais les cortèges sacrés qui gravissent la dure colline, ou grandes fêtes pour évoquer d'autres pèlerinages. Solitaires, ils cheminent dans la pierre rouge, s'élèvent au-dessus de la baie immobile et viennent consacrer au dénuement une heure lumineuse et parfaite. Oran a aussi ses déserts de sable, ses plages. Celles qu'on rencontre, tout près des portes, ne sont solitaires qu'en hiver et au printemps. Ce sont alors des plateaux couverts d'asphodèles, peuplés de petites villas nues, au milieu des fleurs. La mer gronde un peu en contrebas. Déjà pourtant, le soleil, le vent léger, la blancheur des asphodèles, le bleu cru du ciel, tout laisse imaginer l'été, la jeunesse dorée qui couvre alors la plage, les longues heures sur le sable et la douceur subite des soirs.
Bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
Quelle belle lecture.
Merci.
Je suis partie là, ça y est.
C'est vrai. C'est grâce à Camus, plus qu'à moi.
C'est grâce à vous aussi, mais c'est effectivement grâce à Camus aussi. Le livre s'appelle L'été. Pourquoi avoir choisi cet extrait-là ?
Ah, parce que Camus est le regard et la voix de cette Algérie que je ne connais plus, que j'ai finalement inventée dans mes livres. À force d'écrire, j'ai construit mon Algérie, ma légende. Et Camus a à la fois cette poésie et cette dimension philosophique qui m'attache tant à ce pays. L'Algérie, c'est l'expérience de la beauté et de l'esthétisme à tout jamais. Alors ça vous frappe, comme pourrait frapper une maladie. Je ne suis pas retournée en Algérie depuis 81 et je n'ai cessé de la rechercher justement dans les livres de Camus, qui a très bien décrit Tipaza, qui a été pour moi un terrain de jeu hallucinant alors que j'étais une petite fille, les ruines romaines.
Tipaza, justement, on y va.
Tipaza, au bord de la Méditerranée, à 60 km à l'ouest d'Alger. Les Algérois viennent en foule ici les dimanches, dans ce petit port de pêche qui est surtout l'une de ces villes romaines d'Algérie où le savant et le touriste méditent sur d'admirables ruines surgies dans un décor aux couleurs violentes. Tout ici est vert foncé, vert éclatant, rouge rutilant. Tout est bleu outre-mer. Tipaza est la perle de cette côte proche d'Alger.
Tipaza, il y a quelques années déjà, on l'entend à la voix du commentateur. Vous avez aimé, je le disais tout à l'heure, vous avez aimé nager d'ailleurs là-bas à Tipaza.
C'est Tipaza, c'est vraiment comment dire caractéristique de cette Algérie dont vous vous souvenez.
Bah, pour moi, Tipaza, c'est une sorte de matrice. C'est là que tout commence. À la fois ma propension à la poésie, à la rêverie, à la pensée, au mysticisme aussi. Et puis, Tipaza, ce sont des ruines romaines. Donc, c'est cette mélancolie très très renversante et très attachante de marcher à l'intérieur du passé, de marcher à l'intérieur des vestiges. Parce que Tipaza, il y a des villes en ruines, il y a aussi un théâtre, il y a des bains, il y a des travées. Et je crois qu'avoir grandi dans Tipaza, et c'est un site aussi qui est au bord de l'eau, ce qui est assez rare, et d'avoir plongé des rochers de Tipaza et des ruines de Tipaza, je crois que j'ai été frappée par la magie de l'Antiquité et aussi peut-être la magie... d'une forme de modernité qui se mêle à l'Antiquité. C'est-à-dire que c'est là qu'a pris l'écriture. L'écriture, en fait, c'est quoi ? C'est raconter, c'est restaurer, c'est réinventer. Donc il y avait tous les éléments, plus une nature grandiose, vertigineuse, pour que je devienne un écrivain, c'est-à-dire un être à la fois nostalgique, mais qui regarde vers l'avenir.
Vous n'êtes pas née en Algérie, vous y êtes arrivée après 2 mois, c'est ça ?
Oui.
Et vous y avez grandi jusqu'à vos 14 ans. Est-ce que vous avez souvenir de sons où on se disait, quand on entend ça, on est en Algérie ?
Oui, le vent. Mais je pense aussi, comme dans le sud de la France, à Marseille, à Aix, il y a beaucoup de vent. Et l'Algérie, c'était le vent, les portes qui claquaient. Nous habitions... dans une résidence sur les hauteurs d'Alger qui était construite sur pilotis. Et j'ai ce souvenir de fenêtres qui claquent, de portes qui claquent et aussi l'impression de vivre avec des fantômes toujours, parce que le vent peut-être porte les fantômes, je ne sais pas, mais en tous les cas donne cette impression de lieu hanté. Alors oui, c'est ça le bruit d'Alger. Après, le bruit de la circulation, parce que c'est une ville très dense, et le bruit... je trouve qui est telle une épopée et qui a suscité tant d'imagination, le bruit de la sirène des cargos, des pétroliers ou des grands cargos qui emmènent des voyageurs vers la France ou qui ramènent des voyageurs vers l'Algérie. Et voilà, Alger est un port et c'est un lieu de passage et aussi de grands fantasmes parce que beaucoup voulaient partir d'Alger et veulent encore partir d'Alger et beaucoup veulent rentrer à Alger.
Ouais.
Et encore plus, je pense, en cette période de grand confinement où les territoires sont parfois interdits ou compliqués d'accès. Et cette sirène des cargos a été pour moi l'invitation au voyage. Mais je crois qu'aussi les plus beaux voyages sont nos voyages intérieurs. Et l'écriture... n'est qu'un voyage intérieur, finalement. C'est un voyage à l'intérieur de soi. Qui est assez pratique, puisqu'on n'est pas obligé de prendre un avion, ou un train, ou une voiture.
Ou un cargo.
Mais qui permet des grandes envolées et des grandes routes franchies. C'est-à-dire que vivre, c'est poursuivre son chemin intérieur, peut-être.
Vous disiez tout à l'heure que, justement, vous inventiez aujourd'hui l'Algérie que vous écrivez dans vos livres. Elle ressemble à quoi, votre Algérie inventée ?
Ah, mon Algérie reste vraiment sensuelle. Sensorielle. C'est l'Algérie de l'enfance, avec l'Algérie aussi de périodes de violence. Je l'ai souvent raconté, puisque j'arrive en 67. Hein. L'Algérie est indépendante depuis 62. Ma mère arrive en 62, blonde, aux yeux bleus. C'est la Française qui aime les Algériens, alors que tous les colons, eux, partent. Donc, elle épouse mon père, mais elle épouse aussi un pays. Elle tombe folle amoureuse de ce pays, de sa nature, de sa population. Et elle m'instruit, elle m'enseigne la tolérance, puisque ma mère n'est pas vraiment acceptée. Et elle va se faire accepter à force de tenir pendant tant d'années. Souvent, elle dit « j'ai donné ma jeunesse à l'Algérie », mais je crois que c'est vrai, mais avec beaucoup de fierté. Elle dit « j'ai fait mon Algérie », non comme on fait la guerre, mais plutôt comme on fait l'amour, je pense. Je crois qu'il y avait, elle a eu un coup de foudre absolu. Elle est arrivée la première fois dans les gorges de Palestro. Et Palestro, c'est un endroit très fort parce qu'il y a eu un massacre terrible pendant la guerre. Mais c'est ça aussi en Algérie, comment le sang se mêle à la beauté et comment le sang se mêle au soleil, se mêle aux gorges, se mêle aux falaises. C'est un pays très étrange pour cela, parce qu'on tombe amoureux de sa brutalité parce qu'elle est entourée d'esthétisme absolu.
Ouais. Une mère française, un père algérien, vous la sentiez, vous, cette double culture quand vous étiez enfant ?
Oui, je l'ai senti. Je crois qu'elle m'a aussi transcendée parce que la dualité chez moi est une sorte d'omniprésence et finalement de stabilité. On pourrait penser que ça me déséquilibre, mais il y a eu cette dualité culturelle, cette dualité nationale, ma dualité être une fille ou un garçon, je ne savais pas trop. La dualité...
Je crois que vous vouliez vous faire appeler par un autre prénom d'ailleurs,
oui,
quand vous étiez
je
plus jeune.
Oui, je voulais me faire appeler Mohamed, parce que mon oncle s'appelait Mohamed. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. C'était un grand lecteur de Georges Bataille. Il a d'ailleurs vécu un an à la maison. Et donc, c'était pas possible. Et je m'appelais Yasmina. C'était trop long à dire. Pour moi, trop féminin. Je regrette un peu parce que je trouve que c'est un prénom magnifique.
C'est vrai.
Et je pense
Mina
que...
aussi, ceci dit. Mais...
Oui, mais je pense que Yasmina, j'ai une part de Yasmina. Vous voyez la dualité. Je suis tantôt Yasmina et tantôt Nina. Et donc, je me suis rebaptisée Nina, qui a été après mon nom d'auteur. Et je pense qu'il m'aura...
Mais vous vous êtes baptisée enfant ? Enfin, enfant, vous vous êtes
dit, je vais
m'appeler Nina ?
Oui, parce que j'avais une grande insolence, j'espère que j'ai toujours gardé, et surtout une sorte de caractère. Je savais que ma situation était compliquée en tant que petite fille, que la force était plutôt du côté des garçons, et qu'il valait mieux être viril. Et puis surtout, j'ai été vraiment frappée, je pense, par ce qu'on appelle un problème d'identité, mais pour moi, ce n'était pas du tout un problème, c'était une richesse. Et je continue à le dire, je pense que nous sommes tous des hommes à la fois, et qu'en nous, nous devons absolument cultiver nos parts viriles et nos parts féminines, et que peut-être que les hommes et les femmes s'embrasseraient, s'entendraient un peu plus si chacun était à égalité avec tous ces personnages que nous abritons. Je ne suis pas du tout... la théorie du genre, etc., me dépasse un petit peu. Moi, je parle de mon expérience, et je sais que c'était une force d'être multiple, de pouvoir avoir accès aussi bien au monde des garçons qu'au monde des filles. Donc j'étais plus dans une forme de neutralité, parce que j'étais pas vraiment un garçon, physiquement je ne l'étais pas, mais j'étais entre les deux, et cela ne dérangeait que ceux qui m'entouraient, pas mes parents, qui étaient plutôt parfois un peu laxistes, mais tant mieux, et puis plutôt très tolérants. Mais après, voilà, quand j'ai commencé à grandir, à devenir adolescente, il a fallu choisir un camp.
Et justement, à votre adolescence, vous avez donc 14 ans, vous rentrez en France un été pour voir votre famille maternelle. Il ressemblait toujours à ça, les étés ? Vous alliez toujours en Bretagne ?
En fait, on est parti en Bretagne. J'ai une grande sœur assez tôt, à partir de 5 ans, parce que ma mère disait il faut vous aérer en Bretagne. C'est vrai que les étés algériens étaient assez brûlants et assez chauds.
Et les étés bretons, un peu moins.
Voilà, on les connaît plutôt pluvieux. Mais je suis très bretonne aussi. C'est-à-dire que ma part bretonne est très importante chez moi. Et j'ai adoré cette Bretagne sauvage, folle, qui à l'adolescence aussi a abrité mes premières amours primitive, fauve et sauvage.
Et vous restez. Vous restez l'été de vos 14 ans. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous ont dit vos parents pour vous expliquer que vous alliez rester en France ?
C'était très drôle parce que c'était une sorte de cafouillage. Mes parents étaient assez, à la fois assez forts pour ça, mais malgré eux. Parce que je pense que c'était compliqué lorsqu'on est entre la France et l'Algérie. Mon père était un haut fonctionnaire. Je crois qu'il a dû prendre des choix parfois dans la précipitation. Ma mère souffrait d'asthme sévère. Et en fait, ça s'est passé... J'étais à la montagne avec ma mère. Et je crois qu'elle a lu Le Monde. Et il y avait une sorte de remaniement ministériel. Voilà, on est en pleine période. Et
déjà,
en fait, elle a senti quelque chose. Et surtout, ma mère avait une sorte de conscience et d'intuition politique assez forte. Et savait que l'Algérie allait basculer dans quelque chose, tout d'un coup, qui allait devenir brutal quelques années après. L'islamisme, l'intégrisme, les extrémismes commençaient à se faire ressentir. Pendant les périodes de Noël, il fallait parfois faire attention. Si des musulmans fêtaient Noël, ils étaient mal vus. Est-ce qu'ils achetaient des sapins de Noël ? Est-ce qu'ils buvaient de l'alcool, etc. Et donc, sur un coup de tête, elle m'envoyait à Rennes, chez mes grands-parents. C'était la fin de l'été. Et je suis restée à Rennes, dans ce grand jardin, avec mes grands-parents. J'étais plutôt bien, j'aimais bien cette maison, même beaucoup. Et puis, en septembre, en fait, elle avait trouvé un petit appartement dans le 15e. Et je me suis retrouvée, début octobre, à rentrer en 3e au collège Guillaume Apollinaire. Un collège tout de ciment. Totalement contraire au grand lycée Descartes, lycée français.
Mais on vous l'a dit, on a mis des mots sur le fait que vous n'alliez pas retourner en Algérie.
Non, ça s'est fait très vite. Moi, j'ai laissé ma chambre d'enfant, d'adolescente, même, puisque j'avais 14 ans. Mes premières amours, mes premières amitiés très fortes, mes habits. Il y avait une précipitation qui signifiait l'urgence. Donc j'étais en colère, j'étais très en colère. Aujourd'hui, je le comprends, heureusement. Quelques années, beaucoup d'années sont passées. J'étais en colère, mais j'ai très vite compris que Paris serait une sœur et une mère pour moi. J'ai adoré cette ville, je suis tombée folle amoureuse de Paris. Et puis je suis née une seconde fois, c'est-à-dire que j'ai coupé tous mes liens avec l'Algérie, ça a été très violent. Je n'ai pas répondu à mes amis qui m'écrivaient, j'ai déchiré beaucoup de photos. J'ai eu une nouvelle garde-robe. Je suis devenue une autre. J'avais un accent très fort à l'époque que j'ai perdu. Un accent qui était mi-algérien, mi-pied noir peut-être. J'ai commencé à parler de façon droite, comme on dit dans le sud, si on parle droit ou un peu comme ça en biais. Et puis, je me suis intégrée à ce lycée. Je me suis fait très vite des amis. Je suis devenue une autre. Mais j'ai en moi toujours gardé ce fantasme que j'avais laissé une autre part à Alger qui a peut-être grandi à mon insu.
J'aime bien l'idée de parler en biais. Nina Bouraoui est notre invitée dans Chacun sa route jusqu'à 15h sur France Inter. Il y a, vous savez, cette fameuse technique du « c'est pas toi, c'est moi, tu seras mieux sans moi, tu comprends ». Mais il y a 50 autres façons de quitter votre amour. Toc Toc Toc, un groupe de soul allemand. C'est tout de suite sur France Inter.
Problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I repeat myself, at the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. He said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then he kissed me, and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Toc, toc, toc sur France Inter. 14h23, on poursuit la route avec la romancière Nina Bouraoui. Vous nous disiez il y a quelques minutes que vous arrivez donc en France, vous avez 14 ans, vous avez cet accent que l'on a tous, finalement on a tous un accent, mais peut-être un accent que vous, à ce moment-là, vous n'avez pas envie d'avoir. Vous réajustez aussi votre vocabulaire. Est-ce qu'il y a des mots que vous adoriez en Algérie et que vous ne pouvez plus utiliser ici?
Alors peut-être que je retire du vocabulaire quelques mots arabes, mais j'ai eu la chance, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était les symptômes de mon métier d'écrivain, j'ai eu la chance de parler assez juste très tôt, très jeune, très petite. Donc le vocabulaire, il est resté. Après, il y a des expressions idiomatiques, bien sûr, lorsqu'on est en Algérie, on a tendance à les dire à la fin de chaque phrase, etc. Mais non, c'était plus cet accent qui me rendait tout d'un coup étrangère dans un pays qui était le mien, puisque la France était aussi mon pays. Et je savais que, alors on parlait de dualité tout à l'heure, que ce pays, il fallait se le réapproprier, il fallait envahir ma nationalité française, devenir française, mais tout en laissant en retrait ma nationalité algérienne, mais je ne l'ai jamais renié. Ce que j'ai fait, c'était une sorte de geste de la jeunesse, avec sa violence. Mais très vite, ce geste, je l'ai regretté et je crois que j'ai intégré après ma nationalité algérienne, peut-être comme je ne l'aurais jamais fait. Oui, mais assez vite, je crois qu'à partir de 18 ans, même à partir de 16 ans, dès que je commence à écrire, en fait, l'Algérie va éclairer tous mes livres de l'intérieur. C'est-à-dire que même lorsque mes livres ne sont pas algériens, je sais que la lumière algérienne les éclaire, que le bruit de la mer n'est jamais très loin, que le bruit du vent dans les feuillages, justement, que c'est la terre primitive et qu'elle s'allie très bien à la France, que l'une ne trahit jamais l'autre, bien au contraire, l'une enrichit l'autre et je ne peux pas les séparer. Pour moi, c'est la victoire du métissage. Le métissage n'a jamais été un écartèlement, ça a été plutôt parfois une douleur en raison des autres, mais comme l'homosexualité. Mais à l'intérieur de moi, ça a toujours été... vous savez, quand on a deux portes, c'est mieux qu'une seule issue. Autant ouvrir les deux, fermer les deux, mais en tous les cas, on a le choix et il ne faut pas choisir. Il faut jongler entre les deux.
Puisque vous parlez d'homosexualité, c'est un peu vertigineux de se dire qu'il y a peut-être une partie de notre identité en nous que l'on n'a pas encore découvert. Et c'est souvent ce qui arrive quand on se découvre homosexuel. Vous dites que vous avez trois cultures, la culture française, la culture algérienne et la culture homosexuelle, et que vous avez voulu occuper votre homosexualité comme on occupe un territoire. À quoi il ressemble, ce territoire ?
Ah, alors il était territoire extrêmement paisible enfant, parce que ça, je l'ai toujours dit, un adulte homosexuel a été un enfant homosexuel. Il fait partie, voilà, c'est son choix. Ce n'est pas un choix en plus, c'est une nature amoureuse. La sexualité me dérange parce qu'elle est propre. Je pense que c'est elle qui convoque le fantasme, qui est souvent un fantasme hétérosexuel. C'est elle qui convoque la violence. On ne devrait pas... Je pense qu'on devrait parler d'identité amoureuse, de qui on tombe amoureux ou pas, par qui on est attiré ou pas. Ôtons toutes les scènes, parfois un peu salaces, qu'on pourrait retrouver dans un film pornographique de série B, même si je crois qu'ils sont tous de série B. Mais vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait partie de l'identité, ça fait partie de la nature. Donc à 4 ou 5 ans, il était pour moi absolument merveilleux et sublime de passer du temps dans les criques sauvages, parmi les amis de ma mère, qui étaient toutes magnifiques, les amis de ma sœur aussi. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une sorte de gynécée où la beauté était à la fois un don, c'est-à-dire que je recevais, et puis une source d'inspiration infinie, et surtout un équilibre. Je me sentais très équilibrée, je me sentais très à ma place, je recevais beaucoup de tendresse de toutes ces femmes, je leur en donnais aussi beaucoup. J'étais plus que l'enfant, j'étais celle qui regardait et qui savait que la vérité était là. J'étais dans ma vérité. En grandissant, adolescente, je sais que ma vérité est toujours là, mais c'est la société qui vous fait bien comprendre, surtout lorsqu'on est jeune, que ne pas appartenir à la meute est compliqué, qu'il faut du caractère pour s'affranchir de cela.
Et vous dites que ce fut un long chemin de vous accepter depuis ces jeunes années où le soir vous alliez observer ces femmes qui en aiment d'autres au Katmandou. C'était une boîte parisienne qui a fermé depuis. le Katmandou. Est-ce que vous vous rappelez de ces premières fois où vous y allez? Et peut-être que sur place vous y êtes bien, mais vous avez un peu peur d'en ressortir, qu'on vous voit en ressortir.
Extrêmement bien. Le Katmandou fait partie d'un voyage. C'est le voyage dans la nuit, c'est le voyage pour m'affranchir, c'est le voyage pour incarner celle que je suis, c'est-à-dire pour rencontrer des femmes qui sont comme moi. Mais elles ne sont pas comme moi, puisque chaque être est différent.
Et
le désir, l'amour, la sexualité n'ont jamais réuni quiconque. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui réunit les personnes. Mais il y avait, en fait, c'était à la fin du Pariscope, aux pages spectacle, je crois, et cabaret. Il y avait justement cet établissement réservé aux femmes, tenu par Eloula Perrin, qui a été une grande figure de la nuit parisienne et de la nuit pour les femmes, de la nuit lesbienne, et qui a fait franchement beaucoup pour les femmes. Elle avait cette gouaille, elle écrivait aussi. Souvent, elle me disait « Oui, tu es écrivain, moi je suis romancière ». C'était assez rigolo. Et en fait, cette porte noire, qui était rue du Vieux-Colombier, c'est devenu le théâtre du Vieux-Colombier.
Oui.
C'est ça qui est drôle. Je pense que les murs sont très hantés par toutes les
oui,
passions.
Oui, vous qui parliez de fantômes tout à l'heure.
Toutes les passions qui sont nées au Katmandou et qui se sont déchirées. Et entrer dans ce lieu n'était pas rien parce que j'avais 18 ans, j'étais la plus petite, la plus jeune. Il y avait des femmes de tous âges, jusqu'à 70, 75, peut-être encore plus, de tous milieux sociaux. Des avocates, des médecins, des secrétaires, des professeurs, des prostituées, des anciennes détenues. C'était une sorte comme ça de lieu à la fois de fête, mais surtout de rencontre. Donc il y avait une tension nerveuse, quand même assez palpable. Parfois il y avait de la violence, il y avait des histoires assez tragiques. Il y a des personnes du Katmandou que j'ai connues qui ne sont plus vivantes aujourd'hui. Et moi j'étais au bar et je regardais, parce que j'étais très timide, et je me suis liée d'amitié avec quelques filles, quelques femmes. Et j'avais très peur de sortir parce que c'était un autre voyage, c'était le voyage du retour. Et j'avais toujours très peur de me faire suivre, ce qui est arrivé parfois, par quelques hommes. Mais pourtant, nous étions dans les années 80 et Paris était assez tranquille à l'époque.
Vous l'avez dit publiquement quand, que vous étiez homosexuelle ?
Publiquement, c'est-à-dire dans mon métier, dans
oui.
l'écriture.
Non, mais j'imagine
Écoutez,
qu'un jour...
Écoutez, c'est arrivé plusieurs fois. En fait, c'est arrivé une première fois à 15 ans, puisqu'au lycée de Zurich, j'ai été outée par une personne que j'aimais beaucoup, en plus. Et là, il y a eu une confrontation avec ma mère, où j'ai totalement nié. Et j'ai commis un autre acte presque délictueux, comme lorsque je suis arrivée en France en perdant mon accent algérien. J'ai outé cette personne à mon tour, en l'accusant. Ce qui est très fréquent, je trouve que la pire des violences pour un homosexuel, c'est de souffrir de sa propre homophobie, de son propre rejet de soi. Et il faut une vie entière pour se reconstruire. Mais une fois de plus, à cause des autres. Ce sont les autres qui ont cette charge, cette responsabilité de vous détruire de l'intérieur et de salir ce qui, pour moi, est la chose la plus merveilleuse au monde, l'amour. Et puis après, à 18 ans, moi je me regarde dans un miroir et quand je vais au Katmandou, je répète trois fois, je suis homosexuelle, je suis homosexuelle, je suis homosexuelle.
Comme un mantra.
Oui, oui, mais parce que je suis fière. Et pourtant j'ai du mal avec cette fierté homosexuelle. La gay pride c'est trop chaud, c'est faire du bruit pour dire nous existons. Mais nous n'avons pas de fierté à être, à aimer les femmes, à aimer les hommes. Il n'y a aucune fierté à cela. En revanche, il y a la fierté de pouvoir vivre ses amours et de pouvoir s'assumer. Donc, ça prend du temps dans mon écriture. C'est avec Garçon manqué. J'ai 30 ans.
30 ans avec Garçon manqué. Et je pense que plein de jeunes femmes, à partir du moment où vous l'avez écrit, où vous l'avez dit, ça a été un soulagement parce qu'il y avait si peu de modèles de femmes homosexuelles. Il n'y en a encore pas des masses, mais il y en a quand même un peu plus
j'étais
aujourd'hui.
J'étais seule, je crois, j'étais pratiquement seule, enfin
oui,
en France tout du moins.
Oui.
Et c'est vrai que c'est très touchant et très charmant lorsque je fais des signatures en librairie ou dans les salons, de rencontrer alors cette génération qui a vieilli, mais aussi encore des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont 17 ans, 18 ans, 16 ans. Et mes livres font partie de leur solitude et de leur acceptation. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux pour un écrivain, parce qu'on a l'impression que les livres ne comptent plus, ne servent plus à rien. Ce n'est pas vrai. Et aussi, à voyager intérieurement.
Mmh. Se le dire à soi, évidemment. Nina Bouraoui est notre invitée dans Chacun sa route. Partons faire un petit détour par le Maroc, si vous le voulez bien. Elle s'appelle Meriem Abouloafa. Elle vient de sortir son premier album et pour ce titre, elle chante en anglais. Welcome back to me.
I see some troubles heading my way, but I don't care at all. I see a problem coming to me, but I'm not scared at all. I know them well, they know me well, they come and go before you know. I am their friend, they don't pretend, we disagree about my misery. I see a huge storm of hail, to the sky I give a five. I cannot words say what the hell, then I keep calm and dive. I dance with the worst, worst dances with me. He smiles at me, I love for us both. We dance a waltz, we dance a twist, with a nice swing once or twice. With all the love, without the pain, I accept you all and sing my refrain. Cause you at least my little beast. You give me all, expecting nothing in return. I ride along the highway of life, weaponless, no gun, no knife. Just like a doll, I can't control matters, feelings and strides. I love my issues, give them a tissue that I usually use to wipe my tears. Collect them one by one, accepting all is gone. This is madness and fun without complaints. With all the love, without the pain, I accept you all and sing my refrain. Cause you at least my little beast. You give me all, expecting nothing in return.
Tous les jours, un peu après 14h30, pas mal après 14h30 aujourd'hui, c'est votre moment à vous qui nous écoutez, un moment en voyage, où qu'il soit, une amitié loin de tout, une fuite, une disparition, un retour aux sources, racontez-nous votre ailleurs. Le répondeur 01 56 40 68 68, mon compte sur Twitter, HelloFond, ou via la page de Chacun sa route sur le site de France Inter. Et aujourd'hui, c'est Jacques qui, sachant que vous seriez avec nous, Nina Bouraoui, nous raconte un souvenir d'Algérie.
L'Algérie, j'ai vécu il y a longtemps déjà, j'avais 20 ans. Et j'aime beaucoup ce pays, j'ai des souvenirs extraordinaires. Et en vivant là-bas, bien sûr, j'avais des rêves de désert. Alors, pour nos vacances, on a pris notre petite 4L et on a filé droit vers le sud. Et à l'approche d'une petite ville qui s'appelle El Oued, on a traversé un village dans lequel nous sommes arrêtés. Et on a pris un hôtel, et le lendemain matin, où l'on démarrait, et bien la voiture ne démarrait pas. Alors on s'est un peu renseigné, on était un peu affolés, les gens sont venus là autour, ils ont poussé notre 4L jusqu'à ce qui ressemblait peut-être à un garage. On a ouvert le capot de notre voiture, il y avait plein de gens, plein d'enfants agglutinés autour de la voiture. Et puis on a vu arriver un vieil homme qui était tenu par la main par un enfant et que l'enfant a guidé jusqu'à notre voiture. En fait, c'était le garagiste qui était aveugle. Alors les gens se sont écartés, il a regardé le moteur, enfin il a regardé. Il a essayé d'écouter le moteur, la voiture ne démarrait pas. il a démonté la tête du Delco, il a demandé à ce qu'on lui apporte du vernis à ongles. Alors quelqu'un a passé un peu de vernis à ongles à l'intérieur de la tête du Delco, le vernis a séché, il a reposé la tête du Velco et puis notre voiture a démarré droit vers le sud. Eh bien, le soir même, on a dormi dans un autre village, enfin tout près d'un autre village, sous des grands arbres, proche d'un point d'eau. On a planté notre petite tente là. Et le lendemain matin, ce sont des voix qui nous ont réveillés, des voix qui chuchotaient. On s'est habillés, on a ouvert notre tente, et là, il y avait une petite fille avec une très très vieille femme, toute ridée, toute burinée par le soleil, avec des fichus sur la tête, et puis des tatouages, et puis du col sur les yeux extraordinaire. Elle nous parlait dans leur dialecte, nous ne comprenons rien, et devant elle, il y avait un plateau avec du café et des petits gâteaux. Elles nous ont offert ça. On a mangé les petits gâteaux et on a bu le café. C'était assez étrange. J'avais du mal à l'avaler. En fait, c'était du café au poivre. Et donc, on a terminé notre tasse et nous a resservi une seconde fois. Il fallait boire le café qui était vraiment pas bon. Mais on a fini notre tasse. Elle nous a resservi une autre fois. Et en fait, on a su que si on finissait notre tasse à café, ça veut dire que c'était bon et qu'on avait envie d'en boire encore.
Merci beaucoup Jacques pour ce témoignage qui a fait beaucoup rire Nina Bouraoui.
Oui, parce qu'on voit très bien, moi je connais bien le désert, c'est des très beaux souvenirs qu'il nous a racontés là. Et c'est vrai que l'Algérie se sépare en deux, il y a deux pays en Algérie, il y a le nord et le sud. Et très vite, alors nous c'était pas une 4L, mais c'était une GS bleue avec ma mère. Et je connais très bien El Oued. Alors il y a El Oued, Boussaada, Gardaïa, plus on s'enfonce, Timimoun, et nous sommes allés alors jusqu'à Tamanrasset, ou après ça en avion, et nous avons fait des bivouacs hallucinants dans le Tassili, dans le Hogar. Nous avons dormi aussi à la Belle Étoile, contre les grottes, dans les grottes, contre les peintures rupestres. C'est là aussi ce qui a nourri mon imaginaire, et je ne remercierai jamais assez ma mère d'avoir tenu, de s'être battue pour que nous connaissions notre pays. Vous savez, souvent, ce sont les mères qui instruisent les enfants. Et de 7 à, je dirais, même de 5 à 12 ans, nous partions au moins deux fois par an dans le désert, mais pour des bivouacs parfois de 3 semaines. Nous faisions 25 km à pied, et je me souviens, par jour, et je me souviens dans mon sac de couchage un jour de regarder le ciel la nuit et de trouver cette étoile qui brille le plus, comme dans Le Petit Prince. Il y avait Saint-Exupéry m'accompagnait, et puis aussi la rencontre avec Dieu, mais un Dieu qui était uniquement à moi. Moi, je n'avais reçu aucun enseignement religieux, mais nous avons eu la chance de dormir dans le refuge du père de la congrégation du père de Foucault. Et il y avait des jeunes sœurs vietnamiennes qui gardaient ses écrits. Et je crois que entre la beauté du lieu, la sécrème, entre après la sécheresse et la beauté en bas du désert immense et d'une petite chapelle avec du sable, nous marchions pieds nus dans ce sable, et les écrits du père de Foucault, j'ai rencontré l'absolu. J'étais une enfant, j'avais 7 ou 8 ans, j'étais très mystique. Et l'absolu est aussi une entrée vers l'écriture, je crois.
Et vous avez des souvenirs très précis, on l'entend depuis le début de cette émission. Vous faites confiance à votre mémoire ?
Oui, j'ai pas toujours une bonne mémoire, mais j'ai une mémoire photographique vraiment très précise. C'est-à-dire que mon enfance, ma jeunesse, mon enfance, les odeurs, c'est vrai que je tressaille, puisque je partage ma vie entre Paris et Aix-en-Provence, et c'est vrai que quand je suis dans le sud, je tressaille quand je sens l'odeur du jasmin, l'odeur des troènes, l'odeur des pins parasols. La Méditerranée, pour moi, c'est vraiment, c'est mon berceau, c'est ma matrice, une fois de plus. Et cette mémoire sensorielle, sensuelle, photographique, elle est parfaite. C'est un outil de travail. Alors je crois qu'aussi j'ai réécrit une légende. Hein. Je pense que l'Algérie que j'écris est un peu trafiquée.
Et c'est pour ça que vous n'y retournez pas d'ailleurs.
J'ai peur de trahir ma légende, c'est vrai. Mais je dois et je veux absolument y retourner. C'est-à-dire que je veux toucher avec ma main la terre algérienne. Et je veux presque l'embrasser, parce que c'est l'autre partie de moi qui, en vieillissant, je crois qu'on se rapproche peut-être de ses racines. Et l'Algérie représente vraiment mes racines. Alors peut-être que l'arbre, c'est la France, avec ses fleurs. L'arbre breton, solide, dur, résistant. Mais les racines qui courent sous la terre et qui nous entraînent.
Et vous y retournerez quand vous dites quand je n'aurai plus peur de ne plus avoir, de ne plus savoir écrire.
Oui, j'ai tellement peur de perdre. Est-ce que cette écriture n'était pas une forme de réparation de ce vide, de cette absence, de ce fantasme aussi? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il est important d'y retourner. Ce sera un grand voyage.
Je ne sais pas si on en écrit autant des livres, quand même, si on se base juste sur une réparation.
Non, et puis je n'ai pas écrit que sur l'Algérie non plus.
Non,
c'est vrai.
C'est pour ça. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez du fait que vous étiez en Algérie et que à 14 ans, vous en partez d'une manière assez précipitée, assez violente, et vous disiez, j'ai arrêté de répondre à mes amis de l'époque, j'ai vraiment fait une rupture. Est-ce qu'à un moment, depuis, vous avez repris contact?
Oui, j'ai repris contact, mais je crois qu'à 14 ans, le cœur n'est pas assez grand pour contenir tous les chagrins. Et je crois que c'était un chagrin terrible. J'ai divorcé, vraiment, c'était un divorce avec ma chambre, avec toutes mes affaires, mon intimité. Je devais rentrer en troisième au lycée français de Descartes. Quiconque a connu ce lycée sait combien il nous a marqué à tout jamais. C'était les anciens bureaux du général de Gaulle, je crois. Et encore, de façon plus lointaine, c'était des palais morts, avec une végétation, des palmiers, des bananiers, des lianes. C'était tout sauf un lycée. C'était l'école du plaisir, l'école de la sensualité, l'école de l'amour, le lycée Descartes. Donc, quitter tout cela a fait en moi une rivière de larmes que mon cœur trop petit, trop jeune, ne pouvait pas contenir. Donc, j'ai préféré fermer la porte pour l'ouvrir après. Et c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, j'ai retrouvé beaucoup d'amis d'Algérie. Je suis aussi en lien avec des Algériens que je ne connais pas, mais qui vivent en Algérie. Et j'ai des nouvelles de mon pays. Et qui me lisent. Et qui me lisent bien, et qui me lisent beaucoup, et qui m'apprécient. Je sais que en Algérie, je suis lue et étudiée aussi. Et ça, c'est une grande fierté. Donc le lien n'est jamais rompu, finalement.
Le lien n'est jamais rompu avec l'Algérie. Nina Bouraoui est avec nous. Ce qui restera, Vincent Delerme nous fait la liste de ses souvenirs. France Inter, jusqu'à 15h. Chacun sa route.
À la fin, il restera la nuit Montauban, une photo en 2003, et tu fumes sur le banc. Derrière la ville, tes cheveux sous mes doigts, immobile, ce qui restera. À la fin, il restera là, sur la patinoire, un enfant serrant son bras, l'ambulance dans le soir. La fièvre en s'endormant et sa peau contre moi, transpirant ce qui restera. Les étangs, la lumière, ton rire, ta voix, le sel sur les paupières, ce qui restera. Des heures, une phrase de toi, un dimanche ordinaire, ce qui restera. À la fin, il restera le trajet brûlant, un autocar Waraka, et nous avons 30 ans. La peau qui a nagé. le sable entre les draps. Les étés, ce qui restera. Les étangs, les lumières, ton rire, ta voix. Le sel sur les paupières, ce qui restera. Un amour, un hiver, cracheur de froid. Ton visage en arrière, ce qui restera.
Vincent Delerme, ce qui restera, une chanson de circonstance puisque nous sommes avec vous, Nina Bouraoui. Vous nous parlez de votre voyage, de vos voyages depuis 14 heures. Est-ce que tous vos voyages, toute votre manière de bouger, est-ce que ça a changé votre manière de partir? Est-ce que quand vous partez aujourd'hui, vous partez avec tout ce que vous nous avez raconté?
Oh, je pars toujours... Toujours très sereine et je rentre toujours très sereine. J'ai besoin de partir. Je pensais que longtemps, j'ai fantasmé sur l'écriture. Je pensais que l'écriture devait être vraiment toujours enfermée dans une pièce. C'est vrai qu'aujourd'hui, je prends beaucoup le train. Moi, j'aime travailler dans le train, j'aime travailler dans le bruit. Mes mauvaises pensées, qui a eu le prix Renaudot, je l'ai écrit en plein travaux, avec des marteaux piqueurs, des murs qui tombaient. Donc je crois qu'il faut désacraliser l'écriture. D'ailleurs, je travaille dans des endroits assez insolites. Et puis lorsque je travaille à Paris, chez moi, je travaille sur mon lit. Je n'ai pas de bureau, je ne supporte pas le mythe de l'écrivain à son bureau, il y a un côté... tellement établi. Je pense que les écrivains doivent rester toujours des enfants. Et chaque livre est une bêtise. C'est ça qui est important.
Sinon, mouvement, alors.
Sinon, il ne faut pas écrire. Oui, toujours en mouvement, parce que... Mais même immobile, je suis toujours en mouvement. Moi, je crois que, justement, pour cette période de confinement, il était important d'avoir chaque jour des pensées, une imagination fertile, des rêves, parce que Paris était vraiment... une ville de ciment qui se refermait sur ses habitants. Moi, j'ai été très frappée par ça, frappée par le silence, frappée par la visibilité de personnes que l'on ne voyait pas, c'est-à-dire tout d'un coup, de gens qui mouraient dans la rue. Il y en avait, pourtant j'habite au centre de Paris, dans un quartier quand même assez favorisé. Et aussi, là, cette sorte de saleté tout d'un coup. Et puis, il y avait des images comme dans American Beauty, vous voyez, ces sacs en plastique qui s'élevaient dans le ciel. Et donc, pour moi, il était important de faire ces voyages intérieurs, de me ressourcer un maximum, parce que franchement, on frôlait souvent soit la crise d'angoisse ou soit la crise de tristesse.
Mais comment vous vous mettez dans ces voyages intérieurs? Ça vient à vous
Moi, je note. Vous savez, je n'arrête jamais d'écrire. C'est-à-dire que pendant le confinement, j'ai laissé de côté le roman que je suis en train d'écrire aujourd'hui parce que je ne voulais pas qu'il soit marqué par le sceau de la tristesse, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur et de la compassion aussi, parce que nous avons eu tous beaucoup de compassion pour tous ceux qui ont souffert. Mais en revanche, j'ai commencé un travail autobiographique que j'espère... publié un jour par tranche de 300 pages en 300 pages, et un travail qui est vertigineux parce que je sais qu'il s'arrêtera quand moi je m'arrêterai de respirer.
En effet.
Mais partir, c'est écrire aussi en soi sans avoir un stylo ou un ordinateur. Moi, je sans cesse, j'écris
et sans cesse
dans ma tête.
Nina Bouraoui, j'ai une mission pour vous.
Oui.
Chaque jour, pour terminer chacun sa route, on fait le portrait d'une exploratrice. C'est la même toute la semaine. Et cette semaine, on raconte l'histoire d'une femme extraordinaire. C'est une Américaine, Gertrude Ederl. On l'a vue grandir lundi. Hier, elle a raté pour la première fois la traversée de la Manche à la nage. Elle veut être la première femme à réaliser cet exploit. On va retourner dans l'eau froide du Channel avec elle. Nina Bouraoui, vous êtes, pour les prochaines minutes, si vous le voulez bien, Gertrude Ederl. Nous sommes le 6 août 1926. Aujourd'hui, c'est dit, elle retente sa chance. Deuxième tentative pour traverser la Manche. La mer est tellement agitée que les voyages en ferry sont annulés. Les paris la donnent perdante à 6 contre 1. Nous sommes au Cap Griné, au nord de la France. Pour qui est déjà allé sur place, vous savez à quel point le vent souffle. Mais qu'est-ce que la vue est sublime. Entre sa première tentative et ce mois d'août 1926, plusieurs changements. D'abord, elle n'a plus le même entraîneur. Thomas Burgess, dit Bill, pourquoi ? Mystère, a remplacé le précédent, lui qui a réussi la traversée de la Manche en 1911, après 18 tentatives infructueuses. Clairement, Gertrude espère réussir avant 18 tentatives. Ensuite, financièrement, pas d'aide de l'Association américaine de natation féminine, qui ne veut pas reprendre le risque d'un échec. Sympa, il lui faut donc trouver d'autres partenaires commerciaux. Et cela la force à devenir professionnelle, ce qui l'empêche, ce sont les conditions de l'époque, de tenter d'autres Jeux Olympiques par la suite. Ils sont donc une petite équipe, près d'elle, ce 6 août 1926. Nous sommes le matin, dans un garage à proximité de la côte. Sa sœur l'enduit de Saint-Doux, d'huile d'olive, pour la prémunir contre le froid et contre les piqûres de méduses. Trois couches de graisse pour atténuer le choc thermique. L'eau est à 16 degrés. Sur la plage, les badauds sont déjà nombreux. Trudy, c'est son surnom, débarque. Elle veut croire en l'exploit. Pour cela, elle porte un maillot de bain deux pièces. C'est la première fois de l'histoire qu'une nageuse porte un maillot deux pièces en public.
Mais je n'ai malheureusement pas eu l'idée de déposer le brevet. J'avais coupé ma combinaison d'entraînement de manière à ce que je ne sois pas alourdie et que je ne souffre pas d'irritation. Mais je voulais rester décente si, en cas d'échec, il avait fallu me tirer hors de l'eau.
Elle porte aussi des lunettes de bain de motard, spécialement créées pour l'occasion. Nage libre, que l'on vous dit. Elle s'élance, enfin, dans les flots. Transperce la brume du petit matin, nage sans s'arrêter. Pourtant les vagues sont importantes. De plus en plus, trois bateaux l'accompagnent. À leur bord, embarquent son père, sa sœur, son entraîneur et quelques nageurs ou nageuses qui lui tiendront épisodiquement compagnie dans l'eau. Au départ, les vagues, ça va, tout va bien. Elle enchaîne les kilomètres en même temps que les heures de nage, s'approche doucement de l'Angleterre. Mais soudain, à partir de la 12e heure de traversée, les conditions climatiques changent. Arrive la pluie, les vagues qui se creusent de plus en plus. Sur les bateaux, plus personne ne peut tenir debout sur les pontons. Ils sont nombreux à avoir le mal de mer. Des conditions extrêmes et ce n'est pas terminé. Le courant la maintient éloignée de la côte anglaise, la déporte, lui fait faire du surplace. Ses proches l'exhortent à jeter l'éponge.
Non, pourquoi faire ?
Pour lutter contre le découragement et la fatigue, elle dévore une cuisse de poulet et chante à tue-tête. 14h, 39 minutes et une poignée de secondes plus tard, elle met, enfin, le pied sur la plage de Kingsdown, dans le Kent, au nord de Douvres. La voici, ça y est, la première femme à traverser la Manche.
Les gens pensaient que ce n'était pas possible qu'une femme traverse la Manche. Je leur ai prouvé le contraire.
Les courants l'ont forcée à nager 40 km en tout, 6 de plus que les 34 km prévus. Et pour autant, elle bat le record masculin de la distance de 2 heures. 2 heures. Pendant 25 ans, cette performance restera inégalée.
Je ne suis pas une personne qui cherche à décrocher la lune tant que j'ai les étoiles.
La suite demain, le podcast dans son intégralité en fin de semaine. Nina Bouraoui, cette émission s'appelle « Chacun sa route ». Je ne sais pas si vous connaissez la chanson « Chacun sa route, chacun son chemin ».
Bien sûr.
Quel message vous voulez passer à votre voisin ? La colle.
Oui. Bah, je pense que l'autre est un paysage. L'autre est un paysage à connaître, à découvrir, à aimer.
C'est une belle fin. On a votre dernier livre, Otage. Est-ce que vous accepteriez de le dédicacer pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment ? On va vous organiser un petit jeu sur le compte Instagram de l'émission Chacun sa route France Inter, si vous le voulez bien.
Oui, bien sûr, oui.
On fera ça juste après.
Avec plaisir, avec joie.
Chacun sa route, épisode 8, revenez demain. Merci beaucoup Nina Bouraoui.
Merci.
Merci à Vera Lou Deride, Louise Cognard, Thomas Omaro, Céline Dubois, Claire-Sophie Collet et Claire Tesser qui ont préparé cette émission. Demain, on parlera de feu et de réchauffement. Non, ça c'était pour aujourd'hui. Demain, on parlera d'océan et on sera avec un chef, la fille qui se mélange. On termine, je ne me perds pas. Avec vous, auditeurs, et un souvenir musical lié au voyage. Faites comme Amr aujourd'hui.
J'aimerais bien écouter une chanson d'Eda Feryousef qui s'appelle « Soupir éternel » parce qu'elle me rappelle d'un voyage qu'on avait fait avec deux potes dans le sud du Sinaï égyptien, dans une ville qui s'appelle Dahab, sur le bord de la mer Rouge. C'est une chanson qu'on écoutait souvent quand on allait manger tous les jours dans le même restaurant. Du coup, c'est une chanson qui, pour moi, symbolise tout ce voyage.
Charline Roux.
Élodie.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Très bien. Et vous?
Ça va pas mal, ouais.
Ouais.
Alors, haute fidélité,
ouais.
Qu'est-ce qui se passe?
Vous voulez le top 5 du jour?
Ouais, j'aimerais bien.
C'est Monsieur Poulpe, attendez-vous au pire.
Ah oui. C'est à 15h30 à peu près.
Exactement.
Et d'ici là, évidemment, on vous retrouve dans quelques secondes sur France Inter.